À présent,
Frédéric Borms.
À présent, ce soir, sur le thème, les images aussi sont vitales particulièrement aujourd'hui, avec Claire Denis et Dorque Zabugnon. Les images aussi sont vitales. On a tendance pourtant, de façon surprenante, même aujourd'hui, à l'ère des écrans, à l'ère du direct, à l'ère où la pandémie nous frappe en direct sur les plateaux de télévision, où nous sommes confinés comme spectateurs, on a tendance encore à considérer les images comme secondaires, comme si elles venaient après, comme si elles ne faisaient pas partie de l'événement, comme si elles ne nous affectaient pas entre la vie et la mort. Nous en parlerons ce soir avec Claire Denis, cinéaste, et Dorque Zabugnon, professeur d'études cinématographiques à l'université Paris-Saint-Denis. Les images aussi sont vitales, Claire Denis, Dorque Zabugnon, bonsoir à vous deux, merci d'être là. Claire Denis, est-ce que ce titre vous surprend? Est-ce que vous l'approuvez? Est-ce que quand vous regardez des images en général, et en particulier les images du présent, celles qui nous sidèrent depuis quelque temps, est-ce que vous êtes affecté, comme ça, directement? Est-ce que c'est ça aussi qui... Oui, est-ce que c'est le regard d'une cinéaste? Mais est-ce que c'est même pas plus direct que ça? Les images nous affectent directement, Claire Denis, il me semble.
Ben, les images sont vitales. Ça m'a affectée de plusieurs manières. La première chose que j'ai pensée, c'est... Elles sont vitales pour ceux qui les font, parce qu'ils en vivent déjà. Et que quand même, il y a eu une sorte de bascule effroyable dans les qui a affolé tout le monde. Il n'y aura plus de cinéma, il n'y aura plus de spectateurs. Donc c'était déjà une sorte de... C'est vital pour le cinéma qu'il y ait encore des images. Dans un deuxième temps, j'ai...
C'est leur contenu aussi qui peut être vital.
Voilà, les images sont vitales, c'est quelque chose... que soit je vois la télévision, soit les images que je vois, je regarde pas trop les sites sur internet, mais je vois des images, ou bien par exemple, j'étais à Venise là pour le festival, pour la Mostra, donc j'ai vu beaucoup d'images qui venaient tout d'un coup presque envahir trop, ouais.
Mais c'est impressionnant, Claire Denis, la façon dont tout de suite vous avez mis en premier le fait qu'il y a des gens qui les font. On les oublie, ces gens qui les font, c'est une des choses dont on va parler aujourd'hui, le fait que les images qu'on prend comme directe traduction, même irruption du réel dans nos vies, ce qu'elles sont un petit peu aussi. Ces images sont pourtant toujours construites, fabriquées, il y a des gens derrière. Tout de suite, vous dans les images, vous voyez une création même, une fabrication, mais aussi une création humaine, des gens qui les font.
Oui, c'est la phrase qui m'a fait penser à ça. Quand je regarde une image, je pense pas forcément à ceux qui l'ont faite. Mais son vital, je me suis dit, ah bah oui, là il y a des gens qui ont souffert, même s'il y a eu des mesures gouvernementales qui ont adouci la chose, il y a quand même, pour pas mal de gens, une grosse perte de vitalité.
Mais une des choses auxquelles je pensais en disant les images sont vitales, et je me tourne vers Dorque Zabugnon, qui enseigne les études cinématographiques à Paris 8, c'est que justement, on oublie ce côté vital des images, leur force vitale, inversement, parce qu'on pense que elles sont fabriquées, elles sont construites, elles sont secondes, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui tient la caméra. Et on a tendance justement à oublier qu'elles font partie du réel. On pense qu'elles sont dans un récit secondaire. Qu'est-ce que vous entendez, Dorque Zabugnon, dans cette expression que je propose, qui n'a rien d'une une vérité en soi, hein?
Non, mais c'est une excellente question. Je la prends, c'est une excellente affirmation. Je la prendrais presque littéralement, en fait. Elles sont vitales. Elles constituent nos environnements de vie immédiats. Les images sont partout, elles nous entourent, elles nous environnent. En ce sens-là, elles sont vitales, mais elles peuvent être aussi mortelles, avec des conséquences plus ou moins graves.
Elles ont des effets réels.
Et puis donc quand on parle de environnement de vie, c'est aussi elles peuvent être créer des environnements un air vicié, disons, comme ça, un peu étouffant. Et en même temps, au contraire, elles peuvent être vitales, c'est-à-dire elles peuvent aussi voilà, nous permettre de respirer un peu dans cette dans ce trop plein d'images, mais en même temps, justement, je rebondirai aussi par rapport à votre remarque en disant que oui, elles sont réelles. Parce que voilà, c'est.
Parce qu'on a toujours l'impression, d'Orc Zabunio, que les images, justement, parce qu'elles sont fabriquées par des gens bien réels, pourtant derrière la caméra, on a l'impression que elles sont fictives, pour le dire clairement. Vous allez publier prochainement un livre intitulé Fiction de Trump. Cette question de la fiction hante aussi le rapport au réel aujourd'hui, et les images sont souvent accusées de cette fiction, alors même que même fictives, disons, même si elles mentent, elles sont réelles dans leur effet sur nous.
Oui, absolument. De toute façon,
raison. Oui. Parce que au final, peut-être si on regarde la télévision ou CNN, ou on voit bien que tout ça est quand même un peu pensé, agencé. Quand moi j'étais une petite fille, les images des reporters, je parle pas les images du cinéma, les images qui informaient, avait presque une valeur sacrée. Il y avait les grands reporters qui mouraient au combat, au champ d'honneur. Et il y avait donc des images qui témoignaient de la guerre du Vietnam. Mm-hmm. Je pense à la petite fille qui court avec le corps
incendié par
voilà.
Napalm.
Je pense que ces images-là, elles étaient complètement... elles nous informaient et c'était vital qu'on puisse les voir, puisqu'on avait l'impression que, comme ça, on comprenait mieux ce que c'était qu'une guerre, ce que c'était que des assauts, ce que c'était que du napalm, par exemple.
Et sinon, pour vous, Claire Denis, quand vous dites donc à juste raison, quand vous dites qu'elles sont vitales, à juste, voilà, c'est ça. Est-ce que cette puissance sacrée, qui était aussi une construction, elle aussi, au fond, il y avait le journal de 20 heures, peut-être un peu sacré, des grands photographes, une construction.
Ils risquaient leur vie quand même.
Ils risquaient leur vie, mais certains la risquent toujours aujourd'hui.
Aujourd'hui, ils la risquent et on le sent dans les images.
Vous sentez tout de suite dans l'image s'il y a quelqu'un derrière.
Non, je ne sens pas tout de suite comme si j'étais une cartomancienne, mais il me semble bien que quelqu'un qui va rester à Alep pendant 2 ans, il va se passer quelque chose, c'est sûr. Peut-être qu'il va mourir, ou qu'il va perdre un membre, ou qu'elle va perdre un membre, mais comme les gens qui, de leur fenêtre, ont filmé l'explosion à Beyrouth, c'est un choc.
Mais alors, justement, d'Orc Zabunio, vous avez beaucoup travaillé sur cette production d'images devant l'événement de quelqu'un de vivant, avec son téléphone portable. Dans votre livre précédent, sur l'insistance des luttes, vous parliez du rôle du téléphone portable dans les révolutions arabes. Ce que dit Claire Denis, vraiment de la personne qui prend l'image en quelque sorte et qui a ce côté vital face à la fiction aussi qui est un danger. Comment est-ce que vous le prenez aujourd'hui?
Les personnes qui voilà, enfin si on prend le cas de la Syrie, de la révolution syrienne, les protagonistes directs de la révolution étaient les personnes, voilà, les citoyens, les citoyennes
avec
syriennes,
leur petit téléphone,
voilà, qui essayaient d'enregistrer ce qui se passait et qui risquaient effectivement leur vie. Le problème, c'est quand vous dites voilà, il y a une construction d'image, c'est vrai qu'il y a un filtre aussi qui s'opère entre voilà cet enregistrement là voilà sur dans l'action quoi des soulèvements et puis la manière dont ces images sont nous parviennent, c'est-à-dire qu'il y a toute une sélection qui s'opère pour peut-être justement se focaliser sur des images qui se ressemblent un peu trop les unes les autres, par exemple voilà on a il y a tout un jeu aussi de d'offres et de demandes, on veut des corps essentiellement blessés, morts, etc. Enfin, en tout cas, là, je parle de la sélection, ce qui préside à la sélection.
La sélection, par exemple, imaginons qu'il y ait 10 personnes qui filment l'explosion de Beyrouth, que Claire Denis va prendre comme exemple. Peut-être qu'en effet, le journal télévisé va avoir ses critères de choix.
Voilà, il y a un mélange entre une forme de voyeurisme, de spectacularisation, ici, de l'histoire, qui pose problème et qui fait que, au final, finalement, si on prend le cas du soulèvement syrien et de la révolution syrienne, rien, on a assez peu d'images finalement qui restent faisant référence spécifiquement à cet événement. Il y a, je pense, énormément d'images manquantes de ces événements-là, puisque précisément il y a ce filtre, cette sélection qui s'opère. Et nous, voilà,
dans le présent, il y a ce jeu sur les images. Les images sont un enjeu majeur de plus en plus, parce que chacun peut les produire.
Par exemple, Beyrouth, c'est filmé d'abord par les fenêtres, par des gens dont on entendait la voix qui criaient d'horreur.
Ouais, avec le téléphone qui tremble même.
Ouais, et puis parfois qui basculaient, parce que leur immeuble était recevait l'onde de choc. Après, on peut mettre en scène, en effet, dans les hôpitaux, les blessés, comme on a vu dans des pays en guerre. Mais je me référais à des choses plus que vous avez dites, c'est-à-dire il y a quand même la construction déjà dans le reportage. En général, c'est pour dire le monde va mal. C'est quand même plus pour ça qu'on envoie les photographes ou les reporteurs.
C'est pour montrer une crise, c'est des images
de crise, ouais.
D'un danger ou d'une épreuve.
Il y a des photographes qui font de la crise leur métier, c'est-à-dire qu'ils arrivent presque à théâtraliser des scènes de... Je pense à des images de ce photographe brésilien, là où on voit les gens qui travaillent dans les mines de sel, ah oui, et avec des ciels très sombres.
Je me trompe peut-être.
Salgado,
oui.
Ouais. Là, on est vraiment dans de la théâtralisation.
Et ça, vous le dites, Claire Denis, de façon positive ou critique? C'est-à-dire, au fond, entre la personne qui est sur son balcon à Beyrouth et la théâtralisation? Pour vous, il y a une
Elle me fait rien, l'image de Salgado, en fait, parce que je vois la composition, je vois qu'elle est belle, je vois que le filtre polaroïde dans le ciel, c'est dramatique, mais j'imagine pas très bien la douleur des gens. Parfois, une image plus simple, plus soudaine, plus brutale, et me bouleverse.
C'est très important, je crois, l'expression que vous venez d'employer, imaginer la douleur des gens. Camus disait que la principale source des catastrophes, c'est que les gens manquent d'imagination, n'arrivent pas à se les représenter et à se représenter aussi la douleur des autres. Mais juste pour reprendre ce qu'on disait, Claire Denis, donc quand même entre les gens qui filment sur leur balcon et nous qui recevons cette image. Ce que disait Dork Zabunian, c'est il y a des médiations. Nous ne sommes pas en contact avec, sauf si nous avons des amis libanais, ce qui est sans doute le cas des uns ou des autres. Mais sinon, on n'a pas de contact direct. On est obligé de passer par ces filtres dont parlait Dork Zabunian il y a un instant.
Oui, mais les filtres, ils mettent 48 heures à s'installer. Et du reste, la question de ces gens à leur fenêtre ou à leur balcon qui ont filmé l'explosion, comme le 11 novembre à New York, je me demandais...
11 septembre, le 11 novembre, c'est une date de fin d'une guerre, non, mais je comprends très bien.
Je me demandais pourquoi leur téléphone était allumé ça déjà, enfin...
Tôt le matin, le 11 septembre.
En position photo, déjà. Est-ce qu'ils avaient un pressentiment? Est-ce que c'était... Je me demande toujours qu'est-ce qui a précédé de quelques secondes l'explosion ou l'arrivée de l'avion dans la tour. Ça, pour moi, c'est très étrange.
Vous avez une réponse, Dork Zabunian. Il y a plein de réponses possibles, j'imagine. Mais vous-même, comment vous pensez ce surgissement de l'image et ce qui précède, ce qui suit?
Ben moi, ce qui m'intéresse en tant que que spectateur, c'est pas tant le moment. Si on prend le cas de l'explosion à Beyrouth, c'est pas tant le moment de l'explosion qui ensuite est d'ailleurs monté suivant différents points de vue quand vous allez sur Internet où il y a des montages qui se font comme ça entre différents points de vue depuis tel ou tel immeuble. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce serait plus de ce qui vient juste après, en fait, ou ce qui se passe le lendemain. Enfin de retourner sur le site, d'enregistrer, je sais pas moi, un silence ou bien d'enregistrer
ce que les gens font toujours avec leur téléphone, hein, puisqu'on parle toujours de ces images trop
avec
leur téléphone,
bien sûr.
Comment
les gens se filment après. Les chercheurs de corps, ou même tout simplement le quotidien de tous ces quartiers qui ont été dévastés juste après l'explosion. Moi, c'est ça qui, quand je parlais d'images manquantes tout à l'heure, et c'est ce qui me manque, et c'est en ce sens-là que, pour revenir un peu à la thématique de l'émission, elles sont vitales dans la mesure où elles nous donnent à voir quelque chose de la vie quotidienne, ordinaire, dans l'après-catastrophe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une...
Mais ça, c'est nouveau, Dorque Zabunian. Vous qui êtes, voilà, professeur d'études cinématographiques, qui avait toute l'histoire des images, et Claire Denis qui est cinéaste, ces nouveaux instruments, pour vous, est-ce qu'ils changent quelque chose? Justement, dans le présent, on parle souvent du contenu des images. On dit que c'est des images nouvelles, sidérantes, le 11 septembre, la pandémie, l'explosion. Mais il y a aussi, ce qui est sidérant aussi, c'est ces nouveaux modes de production d'images. C'est au fond que chacun puisse être un peu cinéaste et qu'il y ait des canaux pour que ça parvienne jusqu'à d'autres gens. Ça, c'est, pour vous, c'est un saut qualitatif dans l'image contemporaine.
Oui, je pense qu'il y a des différents régimes d'images, une hétérogénéité radicale de toutes ces images. Et je pense qu'il ne faut pas, être, je pense, dans une sacralisation de cette nouveauté-là. Je ne dis pas que c'est ce que.
Je pense qu'il faut être dans la fascination. Voilà. Je ne dis pas que je sacralise, mais que.
Mais c'est moi qui ai dit sacré.
Oui, non, mais moi je suis fasciné peut-être.
Ce que disait Claire Denis tout à l'heure est aussi très important, au sens où, voilà, il y a aussi. C'est une histoire, en fait. Élargit les images, quoi. Ces images dites nouvelles, voilà. On parlait des reportages télévisés, il y a l'histoire du cinéma. Je pense que, voilà, quand on est monteur, enfin, on peut tout à fait être monteur en sa propre tête, un monteur virtuel, à agencer des images, en étant totalement, voilà, sans être cinéaste, pour justement
essayer.
Mais on est tous monteurs, hein.
On est tous monteurs,
ah oui,
absolument.
Il n'y a pas de.
Ah ouais, non, je suis.
C'est obligé, même finalement. On ne peut pas faire autrement. On se pose la question, qui a filmé ça? Voilà.
Au fond, le cinéaste, oui, il fait que prolonger un geste tout à fait humain de construction de montage. C'est quoi? C'est monter un récit? C'est monter quoi, Claire Denis?
Je voulais dire une toute petite chose, parce que vous avez dit image manquante, et c'est le titre d'un film de Ritipan. Et l'image manquante, c'est pour lui ce qui n'a pas été filmé pendant la révolution des Khmers rouges et le génocide. Et je trouve que c'est vrai. Et si l'image est manquante, c'est parce que les Khmers rouges avaient complètement fait en sorte que personne puisse faire l'image. Mais c'est aussi parce que tous les pays autour n'ont pas voulu voir ce génocide. C'est quand même très étrange comment on s'est réveillé un jour en apprenant qu'il y avait eu un génocide au Cambodge. Ah ben, ça alors, mais vous voyez quelque
mais
chose
bien
de...
sûr, tout à fait.
Et l'image manquante, vraiment, elle est là, quoi. Je crois. Enfin.
Oui, c'est ce thème-là que vous aviez en tête dans les Abunions, j'imagine, avec Ritipan.
Oui, oui, non, le texte de Ritipan, enfin le film de Ritipan est admirable. Non, moi j'avais aussi en tête, c'est une expression en fait que Serge Danet avait utilisée pendant la guerre du Golfe. Justement, il était devant son poste de télévision, il regardait la guerre du Golfe comme nous tous, enfin à l'époque où j'étais adolescent.
Mais... Bagdad,
voilà, c'est ça, sur CNN, et il dit voilà, en fait, moi j'ai pas l'image de Bagdad bombardé. En fait, bon, on est en 1991, donc c'est avant effectivement les enregistrements dont on parlait tout à l'heure avec les téléphones, etc. Mais il dit voilà, ça c'est une image manquante de la guerre du Golfe. Quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas à quoi ressemble Bagdad qui a été bombardé par les Alliés, bon à l'époque au printemps 91. Donc voilà, c'était image manquante en ce sens-là. Et moi, je pense que aujourd'hui, malgré justement ce trop-plein d'images dont on peut se plaindre, on est dans une autre situation, bien sûr, mais en même temps,
on est toujours dépourvu de.
On est toujours dépourvu. Voilà, on peut faire voilà les différentes crises qui nous environnent. Je sais pas, la crise climatique, la crise sanitaire, voilà, il y a.
Oui, vous avez fait un article sur les images que j'ai trouvé sur Internet, tout simplement, sur les images de la crise écologique. Là aussi, il y a des images écrans qui font écran. Il y en a certaines qu'on nous montre, et puis il y en a des milliers d'autres qu'on ne voit pas.
Oui, alors ça, c'est un énorme sujet. C'est vrai que les images de la catastrophe écologique, c'est une monotonie absolument lamentable, j'ai envie de dire, quoi. C'est que c'est toujours les mêmes images. Si vous voulez, je sais pas, distinguer l'ouragan Dorian de l'ouragan Florence, ces deux ouragans qui ont touché les États-Unis en 2018 et 2019, c'est impossible de les distinguer. Ce sont toujours les mêmes images. Et pareil pour les feux, etc., que ce soit en Australie, en Californie, en Amazonie, au Brésil, etc. Donc ça pose la question de l'efficacité aussi de ces images-là par rapport à une prise de conscience. Mais pour moi, l'efficacité, elle est nulle en ce sens-là, puisque ces images-là n'ont aucun effet sur les politiques publiques au niveau international.
Vous voyez, vous parlez de l'image manquante de Serge Danet, la guerre du Golfe. Et en fait, j'ai... comme si on avait entendu Serge Danet, parce que les actions militaires, elles sont filmé maintenant. Il y a on met des filmeurs,
oui, des caméras même sur les casques, des caméras partout.
Et je pense à la quand on a envoyé ce commando pour tuer Ben Laden. Je l'ai lu ou je l'ai entendu à la radio. Et après, ce film incroyable est sorti avec ces images
en infrarouge,
ouais. Oui, verdâtre, où on voyait l'approche de cette grande bâtisse, un hélicoptère qui se posait, l'autre qui continuait à patrouiller. On voyait toute l'opération, y compris l'ouverture de la porte, une femme. Jusqu'au lit de Ben Laden. Là, quand même,
Vous voyez, Claire Denis, est-ce qu'il n'y avait pas quand même une image manquante, c'est-à-dire finalement la mort elle-même?
Peut-être ce qui manque, c'est le corps de Ben Laden jeté dans la mer.
Donc il y a toujours un jeu entre l'image.
Ouais.
C'était
énorme de rentrer dans sa maison avec une femme qui hurlait. Je sais pas, pour moi.
Oui, c'est le film de Catherine Bigelow, ça, auquel vous faites référence. Zero Dark Thirty, c'est ça?
Ça, c'est plutôt les images officielles que regardait Barack Obama.
Ah non, c'est pas le film de Catherine Bigelow.
Avec l'image que, pour ma part, j'ai en tête de Barack Obama regardant lui-même fasciné. Oui. Et on nous montre la fascination qui a filmé.
Et l'approche de cette maison un peu blanchâtre dans la nuit, et on se dit qu'il y a une famille qui dort là-dedans et qu'elle est visée, elle ne le sait pas, elle ne l'entend pas. Oh là là, ça c'est quand même très étrange pour moi.
Vous la décrivez tellement bien, Claire Denis, que on dirait le scénario d'un film. En tout cas, on voit bien que le regard de la cinéaste nous permet de saisir ce qui se passe dedans. On va jalonner cette conversation par une musique qui elle-même jalonne un de vos films.
So don't try and understand. I get on the inside of you. You can blow it all away. Such a slightest breath, and I know who I am.
À présent,
Frédéric Worms.
À présent, ce soir, les images aussi sont vitales avec Claire Denis et Dorque Zabunian. Claire Denis, nous venons d'entendre le groupe Tindersticks qui jalonne l'un de vos films, Trouble Every Day. Votre dernier film, lui, s'appelle High Life et c'est le même groupe dont vous avez retenu la musique, qui a fait la musique. On va revenir avec vous et Dorque Zabunian sur ce pouvoir des images aujourd'hui, cette vitalité des images à tous les sens du terme dans le présent, y compris pour la pandémie, mais peut-être aussi le lien avec la musique, avec les autres éléments qui pour nous peuvent compléter les images. Les images sont jamais brutes, Claire Denis. Il y a toujours aussi on parlait de construction. Il y a comment est-ce
du
que
montage.
Vous articulez le montage?
Ouais.
Voilà, l'histoire, le langage, la musique. Est-ce que pour vous, l'image a quelque chose de... peut être prise isolément de tout ça, Claire Denis?
Ah oui, moi je peux dire une chose, c'est que par exemple, les images qui ont marqué mon enfance, dont je me suis souvenue toujours et qui aujourd'hui continuent de me faire travailler au fond, c'est quand j'ai vu un extrait du film filmé par l'armée américaine quand les deux bombardiers ont bombardé Hiroshima et Nagasaki, et on est dans l'avion, enfin à hauteur de l'avion, et on voit la bombe tomber, et tout d'un coup, ça prend du temps, du reste, le fameux nuage champignon.
Bon, cette image-là, elle vous a...
Ben, je l'ai vue parce que quand je suis allée au Japon, j'ai même demandé à la voir, et on m'a raconté qu'un photographe, comme on savait pas ce que c'était ce type de bombe, on a envoyé un photographe de l'armée japonaise dans Hiroshima, ne sachant pas qu'il pouvait en mourir. Il y est allé le lendemain et il s'est aperçu que sa pellicule
fondait.
Oui, enfin, elle était complètement fichue, quoi. Mais il reste quelques éléments. Il y a un livre avec quelques éléments de cette pellicule à moitié cramée de la ville d'Hiroshima après le bombardement. Ça, je m'en souviens. Et une autre image, ça, c'était dans mon enfance aussi, c'était l'arrestation de Lumumba par les casques bleus. Lumumba, qui était quand même...
Vous viviez en Afrique à ce moment-là, Claire Denis ?
Ouais. Ouais. Il était avec des lunettes, c'était un homme chemise blanche, cravate. Et tout d'un coup, c'était un homme sans cravate, une chemise ouverte. Il était à l'arrière d'un camion. Et un militaire lui tenait les cheveux pour exposer son visage aux photographes du monde entier. Cette image-là, c'est comme peut-être les femmes au crâne rasé après-guerre, mais c'est des images qui... Bon, moi, c'était déjà dans l'histoire de mes parents, les crânes rasés, mais là, Lumumba, quand même, ce fait qu'on tienne quelqu'un par les cheveux pour l'exposer aux objectifs des caméras, je crois que ça, je ne peux pas oublier. Ouais.
Alors, c'est impressionnant, là aussi, la manière dont vous décrivez ces images et la manière dont vous les racontez, qui peut-être permet aussi de dépasser leur pouvoir de fascination, leur pouvoir vital et peut-être mortel. Donc, Zabunian, vous disiez, au fond, il y a des images manquantes. Est-ce que pour vous, l'image que décrivait Claire Denis, cette image du nuage, du champignon, est-ce que ça nous masque aussi les images qu'on n'a pas, là, de nouveau ? Enfin, cette image peut-être... Peut-être vous diriez, est-ce que vous diriez qu'elles sont plus réelles, ces images des témoins, ces images des yeux, qu'ont vu des yeux, mais que n'ont pas vu d'autres yeux, de cet effet de la bombe sur les humains d'Hiroshima ou de Nagasaki? Est-ce que pour vous, il y a un danger dans ces images, cet effet brut en fond de l'image?
Ben, vous le disiez, de toute façon, il n'y a pas d'image brute. L'image, elle est toujours accompagnée d'autres images. Elle est accompagnée d'un commentaire. Donc, il y a du discursif et du non-discursif. Je pense que si on prend le cas particulier de votre question et du témoignage, là, de Claire Denis, c'est le risque, c'est aussi de tomber dans une forme de, disons, d'esthétisation aussi de l'horreur, quoi, ce dont on parlait un peu tout à l'heure, d'une dramatisation aussi. Vous posiez la question aussi de la musique aussi à l'instant.
Résister justement, comme le récit, le déplier cet effet de l'image permet plutôt de résister, il me semblait en tout cas.
Mais justement le récit de Claire Denis permet justement d'éviter cet écueil là d'une forme de sacralisation aussi de cette horreur qui était la bombe atomique. Mais après, dans ce phénomène de désacralisation, le cinéma, voilà, on a aussi fait son objet. Heureusement que le cinéma est là pour justement arracher ces événements tragiques à justement à leur seule dimension d'horreur.
Pour vous, Claire Denis, le cinéma désacralise ou resacralise? Quel est le rapport du cinéma à cet effet de l'image?
Je pense que ces filmages militaires sont déjà ils sont déjà faits pour la fiction, puisque déjà cette bombe, on la voit tomber, on est dans l'avion avec le pilote, on va pas être On n'est pas en bas avec les gens qui vont perdre leur peau, leurs yeux. Enfin, on ne le saura qu'après, ça. Donc, il y a déjà un point de vue qui est tellement effrayant, au fond, hein.
Et Claire Denis, alors si je saute un peu brutalement, mais pour parce que c'est quelque chose qui nous a tous beaucoup troublés, si je saute à la pandémie que nous sommes encore en train de vivre, que ce moment du confinement très particulier à partir de 14 mars 2020, comment est-ce que vous avez perçu, reçu, j'allais dire digérer, encaisser aussi ces images, alors des images manquantes, il y en avait beaucoup, mais des images présentes, des corps, mais aussi des annonces gouvernementales, les images du monde entier aussi dans leur variété, la Chine, l'Italie, cette variété aussi, cette variation sur l'image de la pandémie. Comment est-ce que vous avez reçu ce moment-là?
Au fond, la pandémie, je l'ai pas tellement vécue en images. J'étais à Paris, donc chez moi. J'avais la vision de mes fenêtres. Et puis, je sortais un peu. Mais il me semble que c'était plutôt... j'avais pas envie de regarder la télévision non plus. Parce que pour voir tout le temps des gens rentrer en réa, non, avec un tuyau, non, j'avais pas du tout envie. Je crois que plutôt, j'ai eu envie de retrouver d'autres images,
vous
de regarder
des films.
D'accord. Ouais.
Mais quand vous dites que vous étiez sur votre balcon, il y avait Paris vide, par exemple.
J'ai pas de balcon, mais par ma fenêtre.
Pardon, la fenêtre.
Ouais. Ça, bah oui, c'est pas pareil.
C'est pas pareil.
Non.
C'est pas pareil. Erreur de monteur.
Ouais,
donc Paris vide, Paris étrange quand même.
Oui, mais enfin, on avait le droit de sortir, faire des petites courses. Mais Paris étrange, mais je sais pas, c'était quelque chose. Il y avait pas la souffrance, n'était pas au premier plan. Voilà, il fallait l'imaginer pour en faire des images.
C'est ce que disent beaucoup de médecins d'ailleurs, que on doute de la maladie parce que justement on voit des tas de choses, sauf l'expérience des malades eux-mêmes, qu'on n'arrive pas à se représenter. Vous-même, Dorque Zabunian, comment est-ce que vous avez perçu ces images ou ces absences d'images ou ces troubles dans l'image?
Ben, vous parlez de variation tout à l'heure. Ouais. Moi, j'ai l'impression, au contraire, qu'il y avait un aplatissement des expériences au niveau international. Bon, je suivais un peu les informations à la télévision aussi. Et c'est vrai que c'était toujours un peu les mêmes images, au sens où, ce sont les personnels aussi hospitaliers, en tenue de protection, ultra masqués, etc., dans des services de réanimation, que ce soit en Chine, aux États-Unis, en France, en Europe. Enfin, c'était un peu toujours les mêmes images. Et c'est celles qui reviennent, d'ailleurs, que ce soit en images animées comme en images fixes. Après, il y avait quelques images comme ça qui étaient un peu des icônes, comme notamment en Italie, c'était une infirmière qui était épuisée. Endormi devant son écran d'ordinateur qui s'est endormi d'épuisement. Donc c'est une image qui est un petit peu...
C'est une photo alors.
C'est une photo, voilà. Ça c'est une photo, mais qui a beaucoup circulé, comme voilà, pour dire voilà, le sacrifice du personnel soignant, etc. Et puis il y a d'autres images qui moi m'ont beaucoup marqué, pour répondre à votre question, mais qui en fait n'ont pas été montrées beaucoup. Ce sont les convois militaires, en fait, dans le nord de l'Italie, notamment à Bergame, qui portaient les cercueils. Ouais. Ils ont fait appel à l'armée pour porter...
Je me souviens d'un bulldozer dans un cercueil près d'une église aussi, avec des cercueils prêts à être emportés.
Voilà, en fait, c'était une espèce d'agencement comme ça, entre différents champs, différentes pratiques, voilà, le militaire, le clinique, etc. Et ces convois qui traversaient les rues de Bergame la nuit m'ont fait un drôle d'effet. Après, c'est vrai que on est dans un rapport cet événement qui est aussi cinématographique, enfin en tout cas pas au sens au sens où on fait référence au panthéon du cinéma, mais au sens où voilà, l'expression récurrente c'est voilà, c'est comme dans un film quoi. En tout cas dans notre rapport à la ville, pour répondre à votre remarque, Frédéric Vance,
c'est comme dans un film, au sens où justement la fiction, la science-fiction même parfois nous a aidé à percevoir ou même à déterminer la production des images du réel.
En fait. Oui, c'est ça. Aux États-Unis, par exemple, c'est le film de Soderbergh, La Contagion, qui était le plus vu en streaming, qui en fait annonce d'une certaine manière, enfin pas annonce, mais met en scène une situation très proche de celle que nous vivons actuellement. Depuis notre fenêtre, ce qui peut frapper aussi, c'est comment des événements très ordinaire, voilà, comme je sais pas, moi, un coup de vent ou bien des oiseaux qui passent dans le ciel, n'importe quoi, devient extraordinaire, quoi. Et ça, le cinéma l'a aussi traité. Enfin, je sais pas, moi j'ai eu un film que j'ai vu parce que ça m'a fait penser, c'est l'éclipse d'Antonioni, qui est un film où à la fin, il se passe en apparence rien du tout. Antonioni filme, je sais pas, des micro-organismes, des fourmis, comme ça, sur un arbre. Il fait des gros plans sur des éléments totalement insignifiants. Mais c'est le moment où justement où l'ordinaire devient extraordinaire. Et j'ai l'impression, en tout cas les premières semaines du confinement, qu'on était dans cet état-là, où en fait où le plus insignifiant prenait un sens considérable.
On reviendra quand même sur ce diagnostic que vous avez fait qui m'a beaucoup frappé de la répétition de l'image, disons, publique de l'événement comme tel. Mais à côté, c'est comme dans un film. Vous l'aviez en tête aussi, Claire Denis, vous qui avez fait des films. Notamment votre dernier film, un film de science-fiction, justement.
Peut
dire de science-fiction. Je sais pas si vous le diriez comme ça d'ailleurs, mais.
Oui, enfin, des bagnards envoyés au-delà du système solaire. On peut dire que c'est pas tout à fait possible aujourd'hui. Donc, peut-être c'est un peu Mais je pense que la science-fiction aime tellement les conditions exceptionnelles de pandémie, d'un microbe. Je me souviens de films comme Zem, quoi, par exemple, avec les essais de la bombe atomique qui avait contaminé les fourmis et qui en avait fait des animaux géants qui envahissaient Los Angeles. Donc, on est prêt à ça par le cinéma. Mais le cinéma, il sait aussi une chose, c'est que ça peut pas durer très longtemps. Donc même si on raconte une histoire longue, il faut qu'elle ait une durée assez courte, avec une sorte de suspense, alors que notre pandémie, nous, celle que nous vivons, elle a un goût différent, parce que elle est déployée devant nous, comme un immense tapis de notre automne qui arrive, puis hiver,
Voilà. Et donc finalement, cet étalement dans le temps, pour vous, c'est un des signes du réel par opposition à un drame qui serait l'unité dramatique d'une fiction, peut-être.
Oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est notre temps à nous. Et alors, c'est pas que c'est moins dramatique, mais du coup, ça ne joue pas comme quand les gens disaient, oh ben c'est comme au cinéma. Non, au cinéma, c'est pas tout à fait comme ça. Ça resserre les mailles.
C'est ça, mais l'expression que Dork Zabunian citait, c'était on se croirait dans un film.
Oui, bien sûr.
C'est aussi quelque chose de la sidération, là aussi. Oui. C'est-à-dire, c'est tout à coup ce mélange. Mais en effet, on se croirait dans un film, ça implique aussi l'idée, en fait, ça n'est pas un film. C'est pour de vrai, mais il y a quelque chose qui brouille un peu. Enfin, il me semble, c'est un peu comme ça que j'entendais on se croirait dans un film.
Oui. Je suis d'accord, j'ai aussi guetté les oiseaux à ma fenêtre, j'en ai même photographié, les plantes vertes qui poussaient, le printemps qui arrivait, tout ça. Mais d'un autre côté, j'avais pas la sensation de... Je veux pas dire que c'était banal. En fait, je vais dire des choses idiotes, mais j'ai l'impression que je pensais surtout à ces îles grecques ou italiennes, où il y avait des gens entassés dans des camps, parce que là, il y avait quelques images, et là, je me disais, la pandémie plus être dans un camp, tout d'un coup, ça a commencé à me torturer, voilà. Pas moi, chez moi, à ma fenêtre, mais je me représentais ça.
Là aussi, on revient à quelque chose qui, pour moi, inattendu, mais très profond, qui jalonne cette discussion, l'imagination de l'image manquante, comme ressource aussi pour compléter cette répétition omniprésente du même. Ce qui me frappe aussi dans ce que vous disiez l'un et l'autre, c'est que la ressource, c'est pas forcément là, contrairement à d'autres événements que vous avez analysés, par exemple Dork Zabunian, de saisir son téléphone et de filmer, c'est plutôt d'aller voir des films, de se donner une sorte de ressources dans des images. Vous le voyez comme ça, Dork Zabunian, vous-même, là, il n'y a pas eu tellement d'images auto-filmées de la pandémie. Il y en a eu un peu. Je me souviens de gens qui se promènent dans Paris désert la nuit, des choses comme ça. Mais pourquoi ce réflexe de spectateur pour le coup?
Non, mais je pense que c'est pour aussi une manière de se brancher à d'autres images, à d'autres imaginations, justement, pour un petit peu s'organiser soi-même dans sa propre vie. dans un moment extraordinaire. Mais je pense que c'est vrai qu'en fait la distinction ordinaire extraordinaire, elle explose en fait. C'est un des, je trouve, des symptômes de cette situation. Si je pense que si le cinéma a un rôle à jouer, c'est justement de travailler cette frontière absolument poreuse, ou alors de brancher justement cet événement extraordinaire aux effets ordinaires dans la vie des gens. Je sais pas, j'ai lu par exemple que dans la ville chinoise de Wuhan, le nombre de divorces avait augmenté de 30 à 40%. Donc voilà, ça, je pense que c'est
bien un film de Claire Denis. Alors, raconter l'histoire d'un divorce à Wuhan.
Non, mais c'est de voir comment la question, comment le couple, la conjugalité fonctionne. Mmh. Bon, voilà, le couple, c'est aussi un noyau central de la modernité du cinéma. Donc voilà, c'est quelque chose qui moi m'intéresserait en tant que spectateur, disons, de voir sans tomber dans un
ce travail de l'événement dans la vie ordinaire.
Absolument.
Dans les relations, d'ailleurs, avec cette ambivalence. Voilà. On va parler de des gens qui se retrouvaient, qui retrouvaient leur lien, mais en même temps de la violence conjugale.
Exactement, la violence conjugale.
Mais ça, c'était le confinement, vous êtes d'accord.
Oui. Est-ce que c'est séparable, la pandémie et le confinement?
À partir du moment où on n'est plus... Le confinement, c'est très particulier, si on vit seul ou si on vit en famille, si on a quelqu'un qu'on aime qui est loin. Et donc, il y a une part très romanesque dans le confinement. Après, quand on dit c'est fini le confinement, j'ai eu l'impression que j'étais les bras ballants dans une liberté étrange.
C'était peut-être le moment le plus dur. Beaucoup de personnes pensent que c'était un des moments
très durs. Pas, mais est-ce que je comprenais pas très bien ce que je devais faire.
Culture.
À présent.
Frédéric Worms.
À présent, ce soir, les images aussi sont vitales, sont mortelles, apaisantes, violentes. Nous en parlons avec Claire Denis, cinéaste, bien sûr, et Dorque Zabunian, professeur d'études cinématographiques à Paris 8, et qui va nous expliquer ce que nous venons d'entendre, Dorque Zabunian, et le lien peut-être inattendu, en tout cas, vous nous avez laissé présager un lien avec le thème de notre discussion sur le pouvoir vital des images, Dorque Zabunian.
Oui, alors il s'agit de l'étude numéro 5 de Phil Glass, interprétée au piano par un jeune pianiste de 35 ans, je crois, qui s'appelle Víkingur Ólafsson. En fait, c'est une musique qui m'a pas mal accompagné dans un travail en cours sur justement les images de Trump. Voilà, il se trouve que j'ai un peu travaillé là-dessus.
Oui, vous publiez prochainement un livre qui s'intitule Fiction de Trump. Je l'avais même moi réintitulé déjà Trump Fiction.
Voilà, c'est peut-être Apple Fiction, mais oui. Trump Fiction. Et en fait, je me disais, tiens, en écrivant sur ce sujet quand même assez déprimant, j'essaie de fabuler. Bon, moi, je suis pas dans la pratique. Mais je suis en attente d'un film sur Trump, voilà, qui serait totalement anti-spectaculaire en fait. J'en parle un peu dans le livre, voilà, une espèce de film qui s'arrêterait sur, ça rejoint un peu notre discussion de tout à l'heure sur les, sur le quotidien de Trump, c'est-à-dire voilà comment, comment il mange.
Se laisser piéger par son auto mise en scène.
Voilà, c'est ça. Voilà comment
d'autres images de Trump.
Voilà comment il mange, comment il fait chambre à part avec sa femme Melania, etc. Comment il lit, même si on dit qu'il lit pas du tout, etc. Et je me dis, tiens, voilà, cette musique-là, de Phil Glass, complètement, elle-même assez répétitive, lancinante, pourrait peut-être, à condition qu'elle ne dramatise pas la chose, pourrait peut-être accompagner ce film totalement fabulé qui m'a accompagné pendant l'écriture de cet essai sur les images de Trump.
Moi, elle me semblait intuitivement, ne serait-ce que par sa lenteur et sa beauté, à l'opposé exact de Trump.
Absolument,
que,
ouais.
Qu'est-ce que vous en pensez, Claire Denis, de cette suggestion de Trump fiction?
Ce que je disais, c'est qu'elle m'a tout de suite ramené à ces moments
la
du
musique,
confinement,
la musique, là,
la
ouais.
musique mmh. oui, ces notes, à cet écoulement apparemment libre et en même temps qui boucle et qui faisait que nos journées étaient quand même très organisées dans une espèce de liberté. Et je trouve ça très beau parce que c'est dans la musique de Philip Glass, il y a toujours l'écoulement du temps.
Mmh. Oui, comme un battement là qu'on entend. Et sur la suggestion de s'en servir comme contrepoint par rapport au rythme effréné des images dont Trump est le nom, pourrait-on dire, ou en tout cas justement l'icône. Comment est-ce que vous voyez cette violence aussi des images contemporaines?
Je crois que Trump, quand même, il a cette espèce de... On dirait, vous savez, les géants dans les le carnaval de Dunkerque. On a l'impression qu'il marche... Poum, 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 poum. Il y a quelque chose où on se dit, oui... Peut-être c'est ça, peut-être ces journées, on dit qu'ils se lèvent très tôt, qu'ils regardent la télévision pendant des heures la nuit, mais peut-être c'est même pas vrai. Peut-être qu'ils dorment 12 heures et qu'ils mangent pas que des hamburgers, mais aussi des haricots verts. Tout est fiction en lui, mais il a quand même, il avance comme un gros robot quand même. J'ai pas l'impression que c'est un homme qui est animé de vibrations. Voilà. J'ai l'impression qu'il est sans vibrations.
Mais qu'il soit sans vibrations et que ça puisse voilà, le rendre comme ça, un peu comme un pantin mécanique, c'est très juste. Mais ce pouvoir qu'il a pris aussi grâce à la télé-réalité, cette maîtrise qu'il a quand même de cette... Justement, dans le mot télé-réalité, moi j'entends ce pouvoir vital des images dont on parle, cette réalité même de ce qu'il y a de plus fictif, mais qui a des effets... de pouvoir, d'emprise même, on pourrait dire. C'est même ce que vous décriviez d'ailleurs, peut-être que ce pantin produit de l'emprise sur nous, qu'on le veuille ou non.
Il se sent aimé par suffisamment de gens dans son pays pour pouvoir dire une chose un jour, le contraire le lendemain, sans que ça porte à conséquence. Il n'a pas de compte à rendre, au fond, il ne rend des comptes qu'à ceux qu'il a décidé de choisir dans son pays. Et cela le lui rende quand même. C'est drôle, c'est une histoire étrange, parce qu'il y a quand même un lien entre ces gens qui votent pour lui, ce pourcentage. Et c'est le lien peut-être le plus désespérant, puisque c'est ceux qui souffrent le plus, au fond.
Mais quel est le rôle de l'image dans ce lien, d'après vous, l'un et l'autre, Jorge Zabignan?
Non, mais effectivement, la télé-réalité, il faut aller y voir de près, quoi.
Vous avez regardé
les
shows qu'animait Trump avant d'être président?
Il a animé une émission de télé-réalité qui s'appelait The Apprentice, puis The Celebrity Apprentice, de 2004 à 2015, qui a connu un gros succès d'audience, et qui a permis le fait que Trump est entré dans les foyers. Bon, il était déjà un personnage assez célèbre, mais surtout ce qu'il faut, c'est des images qu'il faut prendre au sérieux, et ce que ne font pas forcément.
Il avait donc capitalisé l'image du people new-yorkais avec les célébrités, puis lui-même un show télévisé.
Alors c'est des célébrités pas très connues, c'était plutôt des célébrités de seconde zone, parce que quand vous regardez les célébrités, elles sont pas très connues, c'est pas des stars de Hollywood justement.
D'accord.
Parce que Trump nourrit aussi un ressentiment assez fort envers le cinéma hollywoodien. précisément parce qu'il n'est pas reconnu, même s'il a son étoile à Hollywood, mais il n'est pas reconnu.
Il a une étoile à Hollywood.
Mais ce qu'il faut vraiment prendre ces images-là au sérieux, puisque en fait, pour comprendre son mode de gouvernement, la manière dont la manière dont il licencie quand même ses proches collaborateurs, ses ministres, etc. Ça vient d'une manière de faire de la télé-réalité, c'est-à-dire cette émission, en fait, le slogan de l'émission, c'est You are fired, vous êtes viré. Mmh. C'est-à-dire qu'il éliminait les candidats au fur et à mesure lui-même, voilà, assis sur un fauteuil rouge comme ça, et surtout il a repris, il y a une véritable continuité entre la figure audiovisuelle qu'il était à la télévision, donc pendant ses émissions de télé-réalité, et son action comme président. Et
c'est le bureau ovale, la Maison Blanche, c'était dans le prolongement direct de ce fauteuil rouge.
C'est un même spectacle, télévisuel dans un cas, politique dans l'autre. Voilà, c'est une répétition tragique. On sait, sans citer Marx, ça se répète de façon absolument tragique en tant que président. C'est vrai qu'il y a une véritable continuité. C'est sa grande force, en fait. C'est-à-dire que le fait d'être devenu président de la plus grande puissance mondiale ne l'a pas transformé.
Comment est-ce que vous voyez ça? J'allais dire littéralement le voir, Claire Denis, ce brouillage ou cette manipulation des images d'aujourd'hui.
Je vous écoute et en fait, je ne vois que lui devant son estrade ou marchant sur la pelouse vers l'hélicoptère avec sa cravate bleue ou rouge, sa chemise, sa femme à côté ou derrière. Et finalement, je m'aperçois que ce qu'il y a de solennel dans la Maison Blanche a complètement disparu. On la voit plus, la maison. Les mots bureau ovale, j'ai l'impression que
il a vampirisé tout ça, vous pensez?
On le voit plus. On voit lui marchant, revenant, allant, et même quand il a fait cette prière, il est sorti de la Maison Blanche, il s'est mis dans la rue. C'est-à-dire que il comme s'il en avait pas besoin de la maison, j'ai l'impression.
Vous êtes d'accord, Dorque Zabunian, et comment, puisque malheureusement le temps passe vite, comment est-ce que vous...
Non, mais je sais pas ce que je dis. Hein.
Allez-y, Dorque Zabunian. Et aussi, comment on peut résister à ça et à ce que décrit Claire Denis il y a un instant? Ouais, résister à cet effet-là.
Ouais, il faut peut-être ne pas suivre l'information de Trump. Il y a plein d'Américains qui ont cessé de suivre les informations. Ou bien attendre, moi je suis spectateur de cinéma, donc j'attends un film qui m'aiderait à respirer. Donc on revient à la question de la vitalité des images. Moi j'attends un film qui c'est une réalité extrêmement étouffante, un peu
comme
déprimante.
Vous imaginez un film comme Le Dictateur de Charlot qui a pu desserrer l'emprise de Hitler sur l'imaginaire,
par exemple, ou le Caïman de Nanni Moretti, qui est un film sur Berlusconi qui justement essaie de renverser la figure extrêmement vulgaire de Berlusconi sur le terrain même de l'esthétique télévisuelle, mais sans la prendre de haut, sans surplomb. Je pense qu'un des travers aussi d'une démarche critique par rapport à Trump, c'est de le prendre de haut, c'est de dire que c'est un bouffon, etc. Peut-être qu'il l'est, mais on manque totalement les effets très très dangereux de cette personne sur ses concitoyens d'une part, et puis sur le monde d'autre part.
Vous croyez à ce contre-pouvoir du cinéma, Claire Denis, aujourd'hui, face à tous ces enjeux-là?
Oui, je pense que peut-être comme Charlie Chaplin aurait su le voir, il a une tenue, il est coiffé de la même manière, il a une couleur de peau, il a un costume, au fond, il est en costume. Et donc, même on pourrait dire, on se souvient de son prédécesseur, c'était la chemise blanche avec les manches remontées, ce côté cool, moderne et tout. Lui, au contraire, il est empesé dans ce costume d'homme de cirque,
mais justement,
très angoissant.
Mais justement, est-ce que vous pensez pas l'un et l'autre que le danger d'aujourd'hui, c'est que Hitler se prenait totalement au sérieux dans son rôle, ne jouait pas au second degré du tout, ou Staline, ou des gens comme ça, que l'image pouvait déstabiliser. Mais là, on a l'impression de quelqu'un qui est déjà au deuxième degré, qui est une parodie de plus, ne ferait que le renforcer. Est-ce qu'un bon film, même sur lui, l'atteindrait? On ne sait pas. On sait que Hitler, lui, a été choqué par le film de Chaplin, et c'est le génie de Chaplin, mais est-ce que là, il y a encore un pouvoir de contre-pouvoir possible de, contre ces images-là aujourd'hui, Claire Denis?
Moi, je ne sais pas si je fais une réponse bien, mais je pense que quand même, il est américain, il vit en Amérique, et que la Constitution américaine est peut-être fragile devant lui, mais elle ne peut pas laisser surgir un Hitler, c'est pas possible. Et que,
donc il y a des contre-pouvoirs déjà dans le droit.
Que Chaplin le voit, ça. Et la force de Donald Trump, c'est de le savoir, et de savoir qu'il vaut mieux être ce personnage publicitaire presque, hein, de vendeur de voitures. Je sais pas, il y a quelque chose d'étrange dans son apparence, absolument.
Oui, je pense pas. Moi, je vois pas d'effet comme ça de cause à effet direct, disons, d'un contre-pouvoir filmique. Je crois pas. Parce que le cinéma n'a plus la même position qu'à l'époque, dans les années 30, dans les années 50, 60. Et Trump est un homme de télévision. Peut-être que la télévision, en se réorganisant, peut-être avec ses propres images, parviendra
dans tous les autres écrans. D'ailleurs.
Et tous les autres écrans, peut-être à voilà. Mais on va voir. C'est vrai que Claire Denis citait le cinéma américain. Hollywood traverse une très grave crise, en partie liée à la manière dont Trump aussi a exercé le pouvoir et a cassé totalement la figure un petit peu comme ça maîtresse de la démocratie américaine qui est le président. Donc il y a des effets comme ça diffractés dont on verra comment les fabricants, les cinéastes, les producteurs vont s'emparer dans un avenir proche.
Donc on peut résister au présent en allant un peu avant, comme disait Claire Denis, et un peu après, comme disait Dorque Zabunian. Peut-être un dernier mot à chacun, Claire
Denis.
Non,
moi je serais incapable d'imaginer même le film. Je pense qu'il est là, il y a les élections dans un mois, voilà, 40 jours, je crois, bon. Il a le temps de briser encore pas mal de tabous politiques.
Non, je dirais, prenez-le au sérieux et allez voir ses émissions de télé-réalité, les publicités pour McDonald's qu'il a faites, et voilà, on pourra comme ça se construire.
À le prendre au sérieux.
Le prendre au sérieux, absolument. Alors, ne pas le dénigrer, parce que c'est ça qui, effectivement, fait sa force aussi.
Peut-être vous venez de résumer l'émission et proposer un autre titre. Prenons les images au sérieux. Merci de l'avoir fait avec humour et avec profondeur avec nous aujourd'hui, Claire Denis et Dorque Zabunian. Merci infiniment. À présent, ce soir, les images aussi étaient vitales et sont vitales. C'était avec Claire Denis et avec Dorque Zabunian, avec et grâce aussi à Jean-Michel Bernaud, Prudence Castelot, Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Vance. À vendredi prochain, 21h. Bonsoir. Thank you.